L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Je vais vous inviter à venir avec moi ce matin dans la parole de Dieu. On va aller dans Éphésiens chapitre 5. On va aller au verset 14. Éphésiens chapitre 5 et le verset 14. Ce matin, on va voir ensemble un enseignement, un message sur le réveil. À quoi ressemble le réveil? On parle beaucoup de réveil. Il y a eu toutes sortes de choses qu'on a pu voir que les gens appelaient des réveils. Ou des fois même, il y a des églises, surtout aux États-Unis, ils vont dire, eh bien, on a une semaine de réveil qu'on organise d'une telle date, une telle date. Et puis, souvent quand on a vécu des choses qu'on disait, étaient des réveils, souvent ce n'était pas vraiment un réveil. Et vous savez, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut revenir à la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit est un réveil et comment on peut vivre le réveil personnellement. Je crois, ce matin, si on reçoit la parole de Dieu qui va être semée dans nos cœurs, et si on vit personnellement le réveil, Dieu va faire quelque chose d'absolument merveilleux dans cette maison. Quelque chose de merveilleux, mais le réveil, comme un homme de Dieu qui avait soif de vivre le réveil, il a dit, Seigneur, envoie le réveil dans ce cercle. Et puis il est rentré dedans. Il dit, envoie le réveil ici, Seigneur. Et si on est réveillé personnellement, c'est merveilleux. Ça va déborder partout dans notre église et ça va déborder dans notre société. Quand on parle de réveil, on ne parle pas, premièrement, du salut des perdus. Des fois, on pense à ça, on pense que le réveil, bien, c'est les gens qui se convertissent. Oui, c'est dans le réveil. Mais le réveil, quand on parle de réveil, on parle des croyants, ceux qui sont passés de la mort à la vie, qui sont sauvés. C'est des chrétiens qui s'étaient endormis, qui sont réveillés spirituellement. Quand ils sont réveillés, par la suite de leur vie va couler. Les fleuves d'eau vive. Et là, l'Esprit de Dieu va être répandu non seulement sur eux, mais l'Esprit de Dieu va couler même dans une ville où là, les perdus vont se tourner vers Dieu, où l'Esprit de Dieu va attirer les gens qui sont dans les bars même. Ils vont vouloir sortir du bar et aller à l'église tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de réveil qui s'installe dans une communauté. Mais le réveil, c'est premièrement dans l'église et c'est premièrement, personnellement, chez le croyant. Amen. Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, « C'est pour cela qu'il a dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Ça ne dit pas ici que le chrétien est spirituellement mort, ça dit « Relève-toi d'entre les morts. » Quand on est en train de dormir spirituellement, ça veut dire on est comme les païens, on est parmi les morts. Même si on est vivant, mais on est spirituellement endormi. On est endormi concernant les choses de Dieu. Peut-être ça peut être les tracas de la vie, les soucis de ce monde qui nous préoccupent, les distractions de ce monde, manque de priorité. Si on n'a pas les priorités de Dieu, on choisit mal comment gérer notre temps, ces choses-là. Ou on est préoccupé avec les choses de ce monde. Et ça fait en sorte qu'on s'endort de plus en plus. Jusqu'au point où l'apôtre Paul a dit ici dans Éphésiens 5, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Et aujourd'hui, le message, c'est un message que Dieu m'a donné pour vous. Et vous savez, on le sait qu'il va y avoir un grand réveil pendant la tribulation. On sait qu'il va y avoir un grand réveil pendant la tribulation. Certainement, il va y avoir une grande récolte. Mais on pourrait s'asseoir et dire, « Ben, ça va se passer un jour pendant la grande tribulation et puis nous, on attend juste de partir. » Et quitter dans l'enlèvement. Et on peut avoir cette attitude-là, mais moi, je crois que ce qui va vraiment faire plaisir au cœur de Dieu, c'est si on se positionne dans la foi et dans la consécration pour vivre le réveil. Parce que oui, on sait qu'il va y avoir un réveil. C'est certain, c'est écrit dans la parole. Il va y avoir une grande récolte pendant la tribulation. Mais en même temps, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où il y a eu une compagnie, un regroupement de croyants qui croyaient Dieu pour le réveil, et ils ont vécu le réveil. Ils ont vécu le réveil parce qu'ils avaient soif de Dieu. Et quand on parle de réveil, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir peur du réveil. Comme je vous ai dit au tout début, on a appelé plein de choses le réveil qui, et ces choses-là n'étaient pas nécessairement le réveil. Et des fois, on a peur ou parce que des fois, les choses ont mal tourné. Et c'est certain, croyez ceci, comprenez ceci, que tout ce que vous voyez, tout ce que Dieu va envoyer, Satan va essayer de détruire. Et Satan, c'est celui qui imite. Satan imite Dieu. Et puis, il veut détruire ce que Dieu veut faire. Mais dans un moment de réveil, comprenez ceci, le réveil, c'est quand la personne, l'enfant de Dieu, a soif de Dieu, se consacre à Dieu, obéit Dieu et délaisse le péché, met de côté le péché et se consacre complètement à Dieu, entièrement à Dieu. Et quand Dieu voit ce cœur-là, une personne qui a soif, qui veut vivre la présence de Dieu, c'est alors que la main de Dieu descend. La main de Dieu descend sur cette personne-là et sur un regroupement de croyants. La main de Dieu descend, et on peut décrire ça aussi comme le vent de l'Esprit qui vient. Et quand ces choses-là arrivent, quand le vent de Dieu vient, quand la main de Dieu s'installe, c'est Dieu qui débarque, c'est Dieu qui arrive dans une maison. Et nous avons sa parole, comprenez ceci, nous avons sa parole, nous avons les principes de la parole de Dieu pour savoir comment marcher dans la victoire. On a les principes de Dieu. Quand quelqu'un est malade, on peut prier et voir les malades guérir. On peut prendre les principes de la parole de Dieu et combattre le bon combat de la foi, par exemple pour la guérison divine. Et on s'approprie les promesses de Dieu, peu importe les obstacles, peu importe les attaques de l'ennemi. On est là puis on combat le bon combat de la foi. Mais quand on parle de réveil, c'est au-delà d'un combat, c'est vraiment la main de Dieu qui descend et tout le monde est guéri. C'est le miraculeux qui s'installe. Le miraculeux qui s'installe dans une église, dans une ville, où Dieu se glorifie. Et vous savez, quand Jésus se promenait sur cette terre, partout où il passait, quand les gens étaient ouverts à lui, il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient malades. Les gens se tournaient vers lui et étaient sauvés. Et c'est ça qu'on va vivre, enfant de Dieu. Et comprenez ceci, on va vivre la gloire de Dieu, pas parce que c'est un vécu. Si on devait cesser d'exister comme église, admettons, on n'arrêtera pas, là. Mais l'objectif, là, c'est pas qu'un vécu soit sur la map. Comprenez ceci, c'est pas que Joel Spink soit connu ou qu'un de nos pasteurs, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, là, c'est que Jésus soit glorifié. Comprenez mon cœur vraiment là, c'est pas à propos de nous, c'est pas l'église, cette église-là qui va être connue. Parce que ce que Dieu veut faire dans cette ville, il peut travailler avec nous, commencer avec nous peut-être, mais ça c'est pas important. Mais ce que Dieu veut faire, c'est visiter ce peuple, visiter l'église voisine, et que dans cette ville, dans cette région, l'Esprit de Dieu soit répandu. C'est ce que Dieu veut. Mais ça va arriver si l'Église veut. Si l'Église de Jésus-Christ a soif de Dieu. Si on a soif de Dieu. Si on a soif de Dieu. Venez avec moi dans l'Apocalypse, non, dans Actes chapitre 3. Le réveil, c'est assez simple. Le réveil, c'est assez simple. C'est pas dur à comprendre. Dans Actes, chapitre 3, on va aller au verset 19. Comme j'étudie les réveils du passé, on voit qu'il y a des choses qui se reproduisent constamment. C'est merveilleux. On voit les débuts. C'est une personne ou des fois deux personnes, comme dans le réveil avec Evan Roberts, un jeune homme qui avait soif de Dieu. Tout seul pendant des années, pendant 13 ans, il priait, « Seigneur, visite-moi. » Pendant 13 ans, il priait Dieu, il voulait vivre un réveil. Et puis à l'âge de 27 ans, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et puis quand il s'est mis à prêcher, le réveil s'est installé. Et puis les âmes se sont converties. Et puis il y a eu des grandes choses. Et on entend parler du réveil Wales. On appelle ça Wales, je pense que c'est l'Écosse. Il y a plein de choses merveilleuses qui se produisent. Quand le réveil de Dieu s'installe. J'ai entendu un témoignage cette semaine, je crois que c'était dans le réveil de, comment qu'on appelle, Scotland, c'est Hebrides, Scotland, en 1949, 1953. Dans ce réveil-là, il y avait une compagnie de gens qui priaient, qui cherchaient Dieu. Et la présence de Dieu venait tellement intensément dans l'Église que l'Esprit de Dieu allait chercher les gens dans la société. Il y avait un jeune homme qui priait, qui cherchait Dieu. Et il y avait des personnes qui dansaient un soir dans une, je ne sais pas, discothèque à l'époque, je ne sais même pas si ça existait, mais dans une place mondaine. Et puis les gens là-bas, tout d'un coup, avaient une conviction de péché. Une conviction de péché dans une danse. Puis ces gens-là venaient vers l'Église, cherchant Dieu, cherchant ce Seigneur qu'ils ne connaissaient même pas. Mais l'Esprit de Dieu travaillait, allait chercher les gens. On peut le vivre. Dans Actes, chapitre 3, verset 19, il est écrit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Remarquez ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et il y a un but pour tout ça. « Afin, dites afin. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement, ça nous parle d'un réveil. Si on veut vivre le réveil, on a besoin de se repentir de nos péchés. Et on a besoin de se convertir. Amen. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous partager concernant le réveil, on a besoin de changer notre façon de voir notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Vous avez votre Bible entre vos mains ce matin. Vous avez votre Bible. Vous pouvez la ressentir physiquement. Vous avez votre Bible et vous passez du temps à la lire à la maison. Et peut-être pendant que vous lisez votre Bible, c'est votre cerveau qui travaille. Et puis vous avez une approche intellectuelle des Saintes Écritures. Mais comprenez ceci. Quand la parole de Dieu nous a été donnée, la parole n'est pas venue d'une façon intellectuelle. Mais avec moi dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Le Dieu de l'Église, c'est un Dieu surnaturel. Si votre Dieu n'est pas surnaturel, si c'est un Dieu que vous pouvez comprendre avec votre tête, vous ne servez pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu surnaturel. Un Dieu surnaturel. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Dites « inspirée de Dieu ». Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On est tous d'accord? La Bible est inspirée de Dieu. Mais comment? Comment est-ce que cette Bible est inspirée de Dieu? Venez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Vous savez, quand la parole de Dieu a été écrite, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'était par les prophètes que Dieu donnait son message. Et ça ne sortait pas de leur tête. L'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il se mettait à écrire, c'était pas comme, ben, je pense que je vais écrire ça aujourd'hui. C'était pas comme un petit pain quotidien qu'on peut lire, et puis ou même un petit journal intime. Mais c'était inspiré, son écriture était inspirée de Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 21, il est écrit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apporté. » Et on parle ici de la prophétie des Saintes Écritures. On ne parle pas d'une prophétie donnée comme ça dans une église locale. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ça nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc l'Écriture, ce que vous avez ici, les Saintes Écritures, ce texte-là, ce message-là, est là entre vos mains aujourd'hui parce que Dieu a inspiré quelqu'un, un homme qui l'a écrit, et ce message-là a été poussé, est venu de Dieu de façon surnaturelle. Et dans la Bible, Chouraki, c'est dit « porté par le souffle sacré ». Ceci veut dire que le souffle de Dieu venait sur la personne qui écrivait le texte. C'est un texte inspiré, mais c'est un texte surnaturel. C'est pour ça que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez transformer, délivrer surnaturellement. La Bible, ce n'est pas juste un autre livre dans le monde, mais c'est la parole de Dieu. Et je suis ici à l'église et je sais que vous croyez déjà ça. Mais on doit s'arrêter et réaliser que dans le monde chrétien, dans notre église, On ne prêche pas la religion, ce n'est pas juste la doctrine, juste l'enseignement, mais c'est quelque chose de surnaturel qu'on a entre nos mains. Et nous servons un Dieu surnaturel. Donc, si notre Dieu est surnaturel, il a parlé d'une façon surnaturelle, il nous parle encore d'une façon surnaturelle. Est-ce que ça se peut que Dieu veut agir d'une façon surnaturelle parmi nous? Oui, il veut agir d'une façon surnaturelle. Mais si on a de la difficulté avec ça, puis on dit, ben moi, ça me dérange s'il y a un peu de surnaturel qui se produit dans mon église, bien, vous êtes à mauvaise église. Parce que cette église-là qui refuse le surnaturel refuse, cette église-là refuse en fait le Dieu de la Bible. C'est vrai, ça, ce que je vous dis. Si on dit tout doit être encadré selon mon ordre à moi, et on ne change rien, bien, vous êtes dans la religion. Ceci dit, Dieu est un Dieu d'ordre, nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit ça, inspiré par le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il faut comprendre que notre Dieu d'ordre, le Saint-Esprit, peut changer notre ordre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, vous savez, venez avec moi dans Exode. J'étais à Tephila, puis le Seigneur a déposé ce passage-là dans mon cœur. Exode, chapitre 7, et le verset 8 à 12. Et je sais que plusieurs ont parfois peur du réveil, parce qu'ils disent, bien, j'ai peur au débordement. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et vous savez que la peur, c'est l'opposé de la foi. Amen. La peur, c'est l'opposé de la foi. Comprenez ceci, peur. Si on a peur du surnaturel, on va être lié par Satan. C'est Satan qui gagne sur nous. Mais Dieu nous dit qu'on doit discerner. Dites discerner. On doit discerner quand les choses sont de Dieu. Et heureusement, Dieu nous dit comment. Il y a une façon qu'on peut discerner, on va voir ça. Peut-être ce matin, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas trop. Mais on ne doit pas avoir peur. Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous donne le discernement. Donc, mon Dieu surnaturel va agir surnaturellement dans ma vie et dans mon Église. Et ça va être selon l'ordre de Dieu, selon son cœur, selon son désir. Et quand Dieu agit, quand l'Esprit de Dieu agit dans une place, il y a des chrétiens qui se réveillent tout d'un coup, certains chrétiens qui étaient endormis, tout d'un coup commencent à se réveiller. Et il y a des inconvertis parmi nous qui sont peut-être démonisés. Vous savez, quand Jésus se promenait, quand il marchait sur la terre, et il y avait des démons, devinez ce qui se produisait. Et les démons, tout d'un coup, commençaient à faire quelque chose, n'est-ce pas? Ils se manifestaient. Pourquoi? Parce que Jésus était là pour les chasser. Mais si on dit, bien, il n'y a pas de place dans notre église pour qu'on chasse un démon, bien, vous êtes dans une religion, frères et sœurs. Mais s'il y a quelqu'un ici qui est possédé par un esprit, un inconverti qui arrive, qui ne connaît pas Jésus, et qui est rempli de démons, et dans la présence de Dieu, comme on a vécu ce matin, se met à faire quelque chose d'étrange dans le monde naturel, mais qui vit une délivrance, bien c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Des gens délivrés. Des gens qui rencontrent Jésus, qui sont transformés. On sert un Dieu surnaturel. Écoutez bien dans Exode, chapitre 7, verset 8. Il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon veut vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Donc, ce que Dieu avait dit, c'était vrai. Amen. Mais Pharaon appela les sages, des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant. Remarquez ici, ils en firent autant. Le diable aime ça imiter Dieu. Le diable imite. Dites, le diable imite. Et des fois, on peut se faire distraire par ses imitations et dire, on ne veut pas le vrai. Parce que, regarde ça, cette chose-là, c'est tout croche. On doit faire attention de ne pas rejeter les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'on a dédain des choses du monde. Et du... Amen. Amen. Là, ça dit, et eux aussi en firent autant par leur enchantement, par leur sorcellerie. Parce que le diable est un être spirituel, réalisez cela. Et puis dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible, le diable agit encore. C'est pas parce que l'Église est religieuse et ne fait rien que le diable lui arrête. Non, non, non. S'il y a des églises qui ne veulent rien savoir du Saint-Esprit et de l'onction de Dieu, le diable lui continue à faire des ravages. Le diable, lui, n'a pas arrêté. Il continue à travailler et détruire des vies. Mais ça dit, écoutez bien verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Ceci veut dire, Dieu est plus fort. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Donc, si je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit sur moi, avec le discernement de Dieu, je n'ai rien à craindre du monde des ténèbres, mais je suis victorieux en Jésus-Christ. Et je peux avancer dans ma consécration en cherchant Dieu, en cherchant sa face, afin qu'il me visite personnellement, afin d'être animé de son esprit, vraiment réveillé. Le réveil, en fait, là, c'est le fait quand les chrétiens abandonnent le péché et se consacrent à Dieu. Ils sortent du monde des morts. Je vais relire le texte dans Éphésiens. Le réveil, c'est assez simple. C'est comme si Dieu nous dit, arrêtez d'agir comme des personnes qui sont spirituellement mortes. Arrêtez d'agir comme ça. Vous les chrétiens, vous êtes spirituellement vivants. Arrêtez d'agir comme si vous étiez spirituellement morts. Mais réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Si l'enfant de Dieu est avec les mortels, spirituellement parlant, Dieu nous appelle à se relever et d'être vivant pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut visiter cette église, Dieu veut visiter son peuple, mais il se cherche un peuple qui a soif. Comme j'étudiais cette semaine spécialement plusieurs réveils de l'esprit, il y a toujours un dénominateur et c'est la soif d'un peuple. Et quand on comprend, quand on a soif de la présence de Dieu, on comprend ce que Dieu va faire quand il va nous visiter. On dit, oui, mais Dieu est toujours avec nous. Oui, Dieu est toujours avec nous. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Mais quand c'est un réveil surnaturel, c'est vraiment la main de Dieu qui s'installe. C'est le ciel qui envahit la terre. C'est une invasion céleste dans une place. Si on dit, moi je suis content comme ça dans ma vie chrétienne, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand l'Esprit de Dieu descend, Dieu va se glorifier parmi nous. Il va se glorifier et vous allez dire, si seulement j'avais goûté à ça avant. Il y a des réveils que j'ai étudiés, même des gens que j'ai côtoyés qui ont vécu des réveils. Ils vivaient un réveil, c'était tellement intense que les gens arrivaient à 5 heures le soir pour une réunion, puis quittaient à 5 heures le matin. Tellement qu'ils étaient imbibés de la présence de Dieu. Tellement les gens avaient soif de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend, ça change notre routine, ça change nos habitudes. Je me souviens quand on était en Alberta, il y a un matin, je vais vous raconter cette histoire-là. Il y a un matin, on est en train de se préparer pour aller à l'église. C'est moi qui prêchais ce matin-là. Et puis notre chambre à coucher était en bas et notre salle de bain en haut. Moi, je suis en train de me préparer. Mon épouse était en bas en train de s'habiller, se préparer pour l'église. Et puis, Mathilde était en bas, c'est ça. Et les deux filles étaient en haut avec moi. Et tout d'un coup, on entend un cri. Et on descend en bas, on va la voir. Voir qu'est-ce qui se passe, là, Mathilde. Et puis Mathilde était pliée en deux comme ça. Puis on se demandait si elle avait une crampe, si elle avait mal, un malaise, quelque chose. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Mathilde, qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle pointe comme ça. Là, j'ai compris, c'est Dieu. Cette journée-là, c'était totalement inattendu. Mais l'Esprit de Dieu a décidé, je visite Mathilde, pendant qu'elle est en train de s'habiller pour aller à l'église. Et puis l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Puis là, un esprit d'intercession, de prière est venu sur elle. C'est surnaturel. Et puis, j'amène ma femme à l'église. Mais ma femme a expérimenté ce que l'église primitive a vécu, a expérimenté. L'église primitive, on disait même, sont sous ces gens-là. Sont ivres. On imaginait qu'ils étaient ivres. Ma femme était comme une femme saoule. Tellement elle était imbibée de la présence de Dieu, elle ne pouvait pas marcher d'une façon normale. Était comme ça, rempli de la présence de Dieu. Je l'ai aidé à se rendre à l'auto pour aller à l'église. Les filles étaient habillées. On arrive à l'église. Mais Mathilde est encore comme ça, dans la présence de Dieu surnaturelle. J'amène ma femme dans une salle qu'on appelle « The Green Room ». C'est une salle réservée pour les invités qui passeront à télévision, pour les passants d'entrevue avant, apprendre à les connaître un peu comme ça. Et puis comme moi, je prêchais, ma femme a pu suivre le culte en direct par la télévision. Sauf que là, Mathilde est là, elle vit quelque chose avec Dieu, elle intercède. Un esprit d'intercession est vraiment sur elle, elle intercède. Elle me dit ce matin-là, elle dit, je suis en train d'accoucher ton ministère. C'est ça qu'elle me dit. Elle est en train de prier comme ça. Moi, je suis de l'autre côté, je m'en vais prêcher, je prêche. Je prêche, je me souviens même plus le sujet. Et après, j'ai dit, je vais faire un appel, et si mon épouse est disponible, ma femme comprenait ce que je voulais dire, elle peut venir prier avec moi aussi. Donc, moi, je suis là, je suis en train de prier pour les gens, et puis, comme d'habitude, rien qui se passe. C'est une joke. Il n'y avait pas grand-chose de visible, c'est juste, alléluia, les gens étaient bénis, recevaient. Mais quand Mathilde Gaudreau-Spinks est sortie, l'onction de Dieu, elle portait l'onction de Dieu d'une façon tangible. Et puis là, elle s'est mise à prier. Et moi, je priais, je vous dis, béni, béni, béni. Mais Mathilde levait la main et là, des sections tombent à terre. Les gens ont resté dans l'esprit d'intercession. Les gens priaient. Et puis, jusqu'à 16 heures, cette journée-là, les gens priaient, étaient dans l'intercession. Jusqu'à 16 heures, les gens priaient. Et puis, ce n'était pas quelque chose qu'on devait fabriquer. Et dire, écoutez, j'aimerais ça. Est-ce qu'on peut prier une heure de plus, les boys? C'est pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu est venu, visitait, touchait les gens, les femmes, les hommes, pleuraient, priaient jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Parce que les gens avaient goûté à la présence de Dieu. Ils étaient touchés, rencontrés par l'Esprit de Dieu. Cette journée-là, c'est une journée qu'on se rappelle. Parce que c'est une journée où Dieu a visité et a accompli des choses. Mais moi, je crois que si on a vécu des choses comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu veut nous visiter. Dieu veut qu'on accouche les plans de Dieu pour cette nation, pour le Québec, amen, pour Granby, Bromont, les environs, Waterloo, Sherbrooke, qu'on accouche les plans de Dieu. Amen. Mais l'Esprit de Dieu va venir, mais on doit avoir une ouverture et une soif. J'essaie de me dépêcher. On va aller dans Jean 7 maintenant. Je vais vous donner un type de l'Esprit Saint. Dieu fait des choses merveilleuses et Satan essaie toujours d'imiter. On doit avoir la maturité pour bien discerner. Parce que si on refuse le discernement, on refuse la bénédiction. Imaginez, si on dit, ben, on ne veut rien de ces choses-là surnaturelles, on veut juste être intellectuel. Bien, vous allez être sauvé. Allez au ciel quand même. Mais vous allez réaliser que votre Dieu surnaturel, vous l'avez juste connu sur le plan intellectuel. Mais moi, je veux connaître mon Dieu entièrement. Complètement. Amen. Jean 7, verset 37, il est écrit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Voyez-vous, on parle de l'eau ici. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais ici, ça nous parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais gloire à Dieu, Jésus est mort sur la croix, l'œuvre de la croix est accomplie, et maintenant le Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas merveilleux? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, c'est surnaturel. Et dans Ésaïe 44, verset 3, venez avec moi, Ésaïe 44, verset 3, c'est un texte ici, plusieurs personnes ont pris ce texte-là. Ce verset-là a été la racine, si on veut, ou l'inspiration pour plusieurs réveils. J'ai entendu le témoignage de deux petites madames, très âgées, entre 80 et 90 ans, qui priaient, qui intercédaient pour le réveil. Et Dieu a envoyé le réveil. Deux petites madames. Ça prend juste deux personnes qui vont s'accorder. Ésaïe 44, verset 3. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ici, on a vu le langage de l'eau nous parle de l'Esprit de Dieu. Et et aussi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais qui nous concerne certainement, c'est une promesse, on a encore des meilleures promesses aujourd'hui pour nous. Ça nous dit, je répandrai des eaux, je répandrai de mon esprit, je répandrai mon esprit sur ta race. Dans la traduction King James, j'aime bien comment c'est traduit, ça dit, car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux sur la terre sec, sèche. Je répandrai mon esprit sur ta semence. Dans la Bible Chouraki, c'est encore mieux. Oui, je fais couler les eaux sur l'assoiffé. Je fais couler les eaux sur l'assoiffé. Êtes-vous assoiffé de la présence de Dieu aujourd'hui? Honnêtement, aujourd'hui, peut-être vous êtes là et vous dites, « Ben, pas vraiment. J'aimerais ça, peut-être, goûter un peu à la présence de Dieu. J'aimerais ça, mais je ne suis pas vraiment, honnêtement, pour te dire, pasteur, là, je ne suis pas rendu là encore. Être vraiment assoiffé, comme quelqu'un qui est en train de mourir, qui est là, desséché, qui a besoin de gouttes d'eau. Puis c'est bien d'être honnête. Si vous n'êtes pas rendu là encore, c'est bien, parce que au moins, ça vous fait réaliser, j'ai besoin d'avoir soif. J'ai besoin d'avoir plus de soif pour Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, je ne suis pas assoiffé, j'aimerais ça un peu, oui, mais j'aimerais ça être assoiffé pour vivre la promesse. C'est merveilleux, puis c'est correct aussi. Si vous n'êtes pas encore assoiffé, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux prier qu'on soit tous assoiffés. Qu'on soit tous assoiffés. Vous savez, quand vous avez soif, vous avez faim, vous allez mettre les choses de côté pour être à la poursuite de ce dont vous avez besoin. Et vous savez, on peut vous dire, je peux vous parler des réveils et comment ça se passe, on va le faire. Mais je peux vous dire, ben, il faut tasser certaines choses dans nos vies. Il faut tasser la télévision, par exemple. Il faut enlever ça de notre vie. Je peux vous dire plein de choses. Et si vous le dites, ou si vous le faites plutôt, puis vous dites, ben là, OK, on va débrancher la télévision parce que là, le pasteur nous a dit que si on veut vivre le réveil, il faut le faire, là. OK, on débranche ça. Vous savez, moi, j'ai une télévision. On l'a débranchée, par exemple, de Bell. Ah, oh, excusez, j'aurais pas dû dire ça. Mais on l'a débranchée. On n'écoute pas la TV. Moi, ça fait des mois, depuis que, comme vous savez, depuis que quelqu'un a gagné aux élections, moi, ça ne donne rien. Mais j'écoute pas la télévision. Ce que j'écoute, moi, c'est des histoires de réveil. Je mets ça sur YouTube. On peut écouter des témoignages. La télévision peut servir à des bonnes choses, peut être là pour nourrir votre foi. Vous pouvez écouter des enseignements, des prédications le soir. Oui, j'ai une TV comme ça, branchée sur mon Internet, c'est glorieux. Et j'écoute des prédications à la télévision, mais ce n'est pas la TV du monde, c'est la TV divine. Amen. Vous pouvez avoir la TV divine à la maison ou juste sur Internet. Mais tout ça pour vous dire, si je vous dis, ben, faut faire ci, faut faire ça, vous allez rentrer dans la performance religieuse, le légalisme. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas ça. On parle d'avoir une soif. Si vous avez soif de Dieu, vous ne voulez même plus regarder des choses qui vont déplaire à l'Esprit de Dieu qui est dans votre esprit. Vous allez attrister l'Esprit de Dieu. Moi, je suis incapable. J'écoutais, là, plusieurs mois, j'écoutais les choses à la TV, mais c'est toujours la pensée du monde, les choses sales de ce monde. Puis ça vient attrister l'Esprit de Dieu en moi. Je ne veux pas écouter la TV parce que ce n'est pas bon. Réalisez-vous ça ce matin. Si vous êtes là et vous dites, ben, il est sur une autre planète, peut-être, mais venez sur ma planète. Honnêtement, si vous aimez les choses du monde, vous avez besoin d'être réveillé. Aujourd'hui, honnêtement, dans ma jeunesse, je vous le disais, ou je le disais plutôt, tu sais, il ne faut pas être légaliste, il y en a des gens comme ci, comme ça. On ne veut pas être légaliste. Mais de nos jours, là, je ne vois pas les bonnes choses à TV, peut-être des émissions de décoration, mais il faut écouter ça. Et comment décorer des gâteaux. Bon, oh, c'est vrai, il y a des bonnes choses, correct. Mais en général, si vous écoutez la TV, c'est juste la pourriture. C'est vrai, c'est la pourriture. En grande majorité, il faut aller chercher les bonnes petites affaires à l'occasion. Donc, si vous voulez vivre la présence de Dieu, vous avez besoin d'enlever les choses qui vont venir attrister l'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est impossible de vivre un réveil si on est branché sur le monde. Honnêtement, je vous le dis, je fais couler les eaux sur l'assoiffé. Si vous dites, moi, je n'ai pas vraiment soif, mais je veux avoir soif. Je veux avoir soif. Prenez la décision d'enlever des choses. Amen. Je vais vous donner certaines choses concernant les réveils. les critères pour vivre un réveil, les critères, les choses qu'on voit. Il y a plein de choses. Je peux vous dire, dans le réveil d'Azusa Street, c'était une église de noirs qui avait soif de Dieu. Et puis ces gens-là se rassemblaient dans une salle très, très simple, même pas très jolie. Mais ces gens-là venaient chercher Dieu. Et puis le pasteur Seymour, un monsieur noir aveugle d'un œil, était là, il mettait une boîte de bois sur sa tête pour se préparer à prêcher. Il priait, il priait, il priait. Et puis, quand il enlevait la boîte, les gens savaient, OK, il a reçu de Dieu. Et puis là, il se mettait à prêcher. Et puis, les gens étaient guéris surnaturellement. Une femme avait un cancer sur le nez, elle portait un masque. Et puis, ils ont décidé, on va prier pour elle, on enlève le masque, ça sentait mauvais. Prier, et Dieu a recréé son nez. Un homme qui avait des mains avec des petits doigts, on a prié pour lui, ses mains ont poussé. Des choses semblables, des gens en fauteuil roulant. Tout le monde sont guéris dans le réveil. C'est le fun, ça. Moi, j'aime ça. C'est l'invasion du ciel sur la terre. Puis quand on réalise, on a le potentiel de le vivre. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Imaginez ça. Ça dépend de nous. Si on cherche Dieu. Mais dans notre société micro-ondes, des fois, on n'est pas prêt à chercher Dieu. Ben Roberts, pendant 13 ans, il priait, un jeune homme. Et c'est juste à l'âge de 27 ans, mais c'est quand même bien à 27 ans de vivre ça. À 27 ans, la gloire de Dieu descend sur lui. Et les gens, je pense qu'il y a 100 000 personnes qui se sont converties. Gloire à Dieu. C'est bon? C'est bon. On se réjouit pour les personnes qui sont sauvées ici. Une, deux, trois, 200. C'est bon? Alléluia. Mais 100 000, c'est mieux. Amen. Mais gloire à Dieu, on veut le vivre. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin d'avoir une soif de Dieu. Et aussi, le critère, quand il y a un réveil, il y a toujours une prédication qui est prêchée. Ça revient toujours. Peu importe le réveil, on entend toujours les mêmes choses. On va prêcher la croix, on va prêcher Jésus, et on va prêcher le sang de Christ. C'est les choses qu'on prêche. Vraiment, je vous dis, si vous faites des recherches dans l'histoire de l'Église, on va toujours prêcher la même chose. La croix. La croix. Jésus et son sang. C'est ça le message. On n'a pas à chercher très, très loin, à acheter des DVD, des coffrets de ci et de ça, savoir quoi prêcher. C'est facile. Jésus crucifié. C'est ça le message. Et c'est le message, comme je vous ai déjà dit dans cette maison, c'est le message que Dieu va utiliser dans ces temps de la fin. C'est le dernier message qui va être prêché dans ce réveil. La croix de Christ. La croix. Jésus crucifié. Jésus ressuscité. Un retour à la repentance pour l'Église. Ça, c'est notre appel. Dans Actes 3, comme on a lu, ça dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Ça, c'est bon pour les inconvertis, mais c'est bon aussi pour l'enfant de Dieu. En fait, si vous voulez donner une définition au réveil, c'est avoir une crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'installe dans une vie, dans une église et dans une communauté. C'est ça un réveil. Une crainte de Dieu, une soif pour Dieu, mais une crainte. Ne pas vouloir lui déplaire. Ne pas vouloir lui déplaire. Vraiment être consacré. Dans Romains 13, verset 10 à 14, venir avec moi, Romains 13, verset 10 à 14. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. L'apôtre Paul dit ici, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Notre délivrance approche, frères et sœurs. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, ça c'est le péché, l'adultère, et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc ne soyons pas charnels, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est le réveil. C'est le réveil, ça. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Ça nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et le sommeil, on le voit ici, on voit la description, c'est de marcher dans les ténèbres, dans le péché. Mais vous dites, oui, mais un chrétien ne peut pas marcher dans le péché. Oui, un chrétien peut marcher dans le péché. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est attristé, et c'est pour ça que le réveil ne vient pas. Parce qu'on n'a pas suffisamment soif et on ne met pas les choses qui sont contraires au Seigneur de côté. On ne les met pas de côté, mais on vit dans le péché. Et Dieu ne peut pas envoyer dans ce moment-là, à moins d'avoir des personnes qui ont soif. S'il y a une personne qui a soif, qui cherche Dieu, l'Esprit va travailler sur ces gens-là qui sont dans le péché. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec Dieu. C'est une consécration. C'est une sanctification personnelle. Et je sais, c'est vraiment pas à la mode. Ici, à EVQ, ce n'est pas une église moderne. On est une église démodée. Sérieusement, notre message est démodé. Mais c'est le message de la Bible. Et je veux rester démodé au nom de Jésus. Je vais rester démodé au nom de Jésus. C'est une sanctification personnelle, sérieuse. C'est ça que Dieu demande. Véritablement, frères et sœurs, vous êtes là et vous pensez que vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est pas du légalisme, frères et sœurs. Vous savez, on peut commettre des péchés, mais on peut aussi faire des péchés par commission et omission. Le fait, quand l'Esprit de Dieu nous dit de faire quelque chose et on ne le fait pas, on désobéit à Dieu. Amen. Tu prêches bien, pasteur Joël. C'est vrai ce que je vous dis. Des fois, on pense juste, ben là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oui, mais tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu es en désobéissance. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous avez besoin de vous réveiller. C'est ça le réveil spirituel, c'est d'avoir une crainte de Dieu. Et dire, Seigneur, je veux te plaire avec ma vie. Les choses qui sont de trop dans ma vie, si c'est ma TV qui me vole mon temps avec toi, au nom de Jésus, je vais débrancher, je vais l'envoyer ailleurs si j'ai besoin. Peu importe, peut-être c'est votre auto, peut-être vous passez des heures à faire briller votre auto, je ne sais pas. Peu importe la chose, on a tous 24 heures, et frères et sœurs, ce n'est pas pour vous condamner, mais ce que je vous dis ce matin, c'est le cœur de Dieu pour vous. S'il y a des choses qui viennent vous voler de votre temps avec Dieu, de votre recherche de Dieu, et vous voulez avoir soif, vous voulez avoir cette soif, et enlever les choses qui sont là pour vous distraire. On parle d'une sanctification. Je peux vous dire, les témoignages que j'ai entendus, il y avait une jeune femme qui était là, dans une ville où il y avait un réveil, et puis, elle était à l'église, mais elle n'aimait pas ça. Elle venait à l'église et son père lui a dit, « Puis comment t'as trouvé l'église aujourd'hui? » Ben, j'ai détesté ça, vraiment, il n'y a rien que j'ai aimé. Mais elle revenait à l'église. Encore, personne ne l'obligeait. Et puis elle témoigne, elle dit, « Je détestais ça, ma chair détestait ça, mais il y avait quelque chose de plus fort qui venait sur moi, qui me donnait le désir d'y aller. » Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui interpelle les pécheurs, qui les attire. Ils sont là. Et puis même, elle avait tellement ce désir surnaturel, mais pas dans sa chair. Elle se rendait dans une réunion de prière. Et puis là, elle a découvert que c'est une réunion de prière. Puis elle dit, « Oh non, c'est quoi cette affaire? Je vais être obligée de prier. Oh non, ça ne me tente pas. » Et puis là, il y avait M. Duncan Campbell qui a eu le gros réveil, le grand réveil. Et il a dit, « Toi, tu soif de Dieu? » Puis elle dit, « J'espérais qu'il ne me demande pas cette question parce que je n'ai pas vraiment soif. » Puis là, elle dit, « Oui, c'était pas vrai. » Mais elle dit, « Dieu m'a quand même rencontré. » Parce que elle pensait ne pas avoir soif, mais finalement, elle se jugeait mal. Mais vous savez, une des choses, quand Dieu voit quelqu'un, l'Esprit de Dieu va l'attirer. Quand une personne, quand on prie pour nos proches, on prie pour notre ville, Dieu va faire le travail. Dieu va faire le travail. Mais ça nous parle d'une sanctification. Une autre chose que Dieu veut faire, il veut nous visiter, mais ça va prendre l'unité des croyants. Et ce matin, ma sœur Annabelle m'a donné une parole. En fait, c'était ce point-là que je vous dis. Si on n'est pas unis avant le réveil, quand l'Esprit de Dieu va venir, il va venir, l'Esprit de Dieu, pour travailler, se glorifier parmi nous, mais le diable va vouloir détruire. Amen? Vous êtes réveillés assez? Vous êtes réveillés avec moi? Donc, si on n'est pas unis dans cette marche de l'amour avec tout le monde dans l'Église, avec tout le monde, et on garde des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, on veut fermer ces portes-là et d'accomplir la loi de Christ qui est la marche dans l'amour. Donc, on doit prendre la décision personnelle. Je veux marcher dans l'unité. Je veux marcher dans l'unité et aimer tout le monde. Je dois aimer tout le monde. Amen. Amen. Je dois vraiment aimer tout le monde. Et si vous dites, mais ma chair ne veut pas, ne ressent pas, vous devez aimer. C'est ça que Dieu nous dit. Amen. Dans le psaume 133, venez avec moi dans le psaume 133. Dans le psaume 133, imaginez si on vivait le réveil. Si chaque personne dans cette église abandonnait son péché pour se donner entièrement au Seigneur, pour prier et chercher la face de Dieu, pour que le ciel nous envahisse. Imaginez si chaque personne faisait ça. Vous dites, est-ce que ça veut dire qu'on doit être parfait, qu'on fait pas ci, on fait pas ça, il faut être parfait pour que ça l'arrive? Moi, ça veut dire que ça n'arrivera jamais parce que je suis tellement imparfait. Non, ça prend un cœur ouvert qui a soif de Dieu. Un cœur ouvert qui est là, qui dit, Seigneur, change-moi, transforme-moi, qui se tient là dans la prière. Vous savez, si vous êtes des gens de prière, le Seigneur va vous transformer. Le Seigneur va vous transformer et votre vision actuelle de votre vie va changer parce que vous allez voir la main de Dieu qui vous transforme. Ne croyez pas des mensonges. Dans le psaume 133, ça dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dites « ensemble ». C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, quand il y a un peuple uni, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le ciel sur la terre. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. Il y en a qui croient? C'est bon? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voici, oh, qu'il est agréable, doux, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Amen. Donc, ça, c'est une des choses qu'on doit, on doit voir dans notre cœur. Est-ce que je suis divisé dans mon cœur? S'il y a des gens, admettons, vous avez eu des difficultés, pardonner, relâcher, aimer. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu? Seigneur, je te demande, pardonne-moi de ces choses-là et je veux aimer tout le monde sincèrement avec ton amour. On va y arriver. Mais il faut être vigilant. Une autre chose qu'on doit faire, c'est pas ici là, ce que je vous donne, c'est pas pour vous donner une liste d'épicerie pour vous dire comment vous devez agir dans le monde charnel, c'est vous donner les principes pour vivre le réveil. Donc, une soif de Dieu, une sanctification personnelle, sincère, sérieuse, marcher dans l'unité, et une loyauté envers Dieu, une loyauté absolue. Être loyal envers Dieu. Dans Jean 15, verset 19, venez avec moi. Même si on déborde de 5 minutes, vous allez survivre, je crois. Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19. Que Dieu nous visite, que Dieu nous change, que Dieu nous donne cette soif pour sa présence. Que Dieu nous visite, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Dans Jean 15, verset 19, il est écrit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ceci veut dire qu'on va être haï. Les gens vont nous détester. Amen. Les gens vont nous détester. Mais on reste loyal envers Dieu. On veut honorer Dieu en tout moment. Amen. Dans 2 Timothée 3:12, ça dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous serez persécutés par les gens dans le monde, mais même peut-être des gens dans l'Église parfois qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans 2 Timothée 2, verset 3, il est écrit « Souffre avec moi, Timothée. » C'est Paul qui disait à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Oui, parce qu'on se tient debout pour Jésus-Christ, mais pas juste ça. Notre chair va souffrir. Mais qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je pensais qu'on était une victorieuse. Je pensais qu'on était une église victorieuse ici. Oui, et la victoire est acquise par Christ. Alléluia. Mais pour aller chercher ces choses-là, pour vivre la présence de Dieu, notre chair va souffrir. Ceci veut dire, ce n'est pas la malédiction par la maladie, là. Pensez pas à ces choses-là. Je suis en train de dire mourir aux appétits de la chair. Ça veut dire peut-être que vous allez mettre de côté votre Big Mac pour aller prier. Peut-être que vous allez jeûner pour chercher Dieu. Peut-être que vous allez prier. Au début, peut-être que ça va être difficile et vous n'allez rien ressentir au début. Peut-être que vous allez être là puis vous allez prier et vous allez dire « Ah, mais on dirait que c'est dur. C'est correct. » Osez prier. Osez prier. Osez attendre que Dieu vous visite. Vous allez être surpris. Des fois, vous allez passer des heures et des heures et des heures en prière. Et vous allez toucher le cœur de Dieu. Dans les réveils, je peux vous dire, je crois que c'est Evan Roberts aussi, à 27 ans. Il prêche. Et puis, dans l'église, il arrive, il y avait des grands noms à l'époque qui voulait venir l'entendre prêcher. C'est un jeune homme de 27 ans. Des grands noms viennent. Et puis, il arrive dans l'église, il vient s'asseoir dans la première rangée. Et puis, pendant 3 heures, il prie. Dans la réunion. Pendant 3 heures. Et tout le monde, là, des centaines de personnes, attendent que le pasteur se lève pour aller prêcher. Mais pendant 3 heures, il cherche Dieu. 3 heures de temps. Seigneur, ton message. Et là, 3 heures plus tard, il vient et puis il prêche la parole de Dieu et le ciel est là. Mais sommes-nous prêts? Si, admettons, j'étais là pendant 3 heures, vous allez dire, mais là, coudonc, qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? Il n'est pas la semaine, lui. Il ne se prépare pas, lui, là. Mais quand il y a une crainte de Dieu, on peut vivre des choses différentes. Peut-être, je me mettrai une boîte en bois sur la tête. Il y a des choses différentes qui se font quand on a une soif et lorsqu'on est dépendant sur Dieu, une dépendance pour recevoir de Dieu, pour recevoir sa parole qui va être prêchée. Mais quand je vous dis une loyauté absolue, être prêt à mourir charnellement. Amen. Dans Romains 8, verset 12, c'est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Amen. Écoutez bien, si vous vivez selon la chair, chrétien, si vous vivez selon la chair, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pensez, ben ça me tente, ça me tente pas. La raison pourquoi on ne vit pas le réveil aujourd'hui, c'est parce qu'on fait ce qui nous tente. On fait ce qu'on veut faire. Comme j'ai prêché récemment, Jésus a besoin d'être le Seigneur de notre vie. Si Jésus est le Seigneur de notre vie, on va faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Si je n'ai pas le goût de prier, et l'Esprit de Dieu me dit, « Ferme ta TV, viens prier avec moi, viens chercher ma face. » Puis on dit, « Ça ne me tente pas, je viens de faire du popcorn, ça sent bon en plus. » Puis je vais me manger du popcorn, puis je viens de mettre du beurre et des épices. Et l'Esprit de Dieu vous interpelle, vous dit, « Viens avec moi dans ta chambre, j'ai des choses à partager. » Puis vous êtes là, puis vous n'avez pas commis l'adultère, là, mais vous avez péché. C'est un péché d'omission. Frères et sœurs, si on est sérieux, puis ce matin, là, moi, là, je suis sérieux, je veux vivre le réveil. Je veux vivre le réveil, je veux vivre la gloire de Dieu avant mon enlèvement. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux vivre ce que Dieu veut qu'on vive, frères et sœurs. Puis ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous condamner. Mais si vous avez ce sentiment-là, peut-être il y a des choses que Dieu veut travailler dans vos cœurs. Je dis peut-être, c'est sûr. Dieu veut travailler dans nos cœurs. Il y a des choses qu'on doit enlever. Dieu nous appelle à une plus grande sanctification, frères et sœurs. Dieu nous appelle à une plus grande consécration, frères et sœurs. Amen. Dans Marc 2, verset 20, il est écrit, « Les jours viendront, Jésus parlait, les jours viendront où l'époux sera enlevé, en parlant de Jésus, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Alors ils jeûneront en ce jour-là. On peut jeûner plein de choses. On peut jeûner la télévision, comme je vous ai dit. Enlever les choses qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Mais si vous avez la difficulté à enlever ces choses-là, peut-être c'est parce que charnellement, vous êtes tellement esclave de votre chair que vous n'arrivez pas à vous déconnecter du monde. Une des façons que Dieu peut vous guider, c'est de jeûner de la nourriture. Ceci veut dire, on peut sauter un repas, ou deux repas, ou même trois repas. Oui, c'est ça, le jeûne, c'est de s'abstenir de la nourriture premièrement. On boit de l'eau, mais on s'abstient de la nourriture. Pourquoi? Pour aller gagner des petits points au ciel? Non. Parce que le temps qu'on prend pour préparer notre nourriture et pour manger, on prend ce temps-là avec Dieu dans la prière. Ça veut dire, c'est une distraction, préparer les aliments. Et vous savez, et même manger, c'est un temps où on fait d'autres choses. Mais si vous dites, au lieu de passer une heure à manger, puis tout ça, là, au lieu de prendre ce temps-là, je vais aller prier et chercher Dieu. Je vais me consacrer. Et là, mon ventre va crier, « Mais j'ai faim, nourris-moi, j'ai faim! » Et là, votre esprit dit, « C'est pas toi le boss. J'ai décidé que je vais prier et chercher Dieu. » Et là, votre corps, ça fait longtemps que je le gouverne. Et là, votre corps a d'autres appétits. Puis là, vous attirez vers d'autres péchés, mais vous êtes rendu assez habitué que vous êtes capable de parler à votre corps et dire, « Tu vas te soumettre. » Et là, votre esprit devient plus puissant. Votre esprit est déjà plus puissant, mais vous ne savez pas, là. Mais votre esprit a besoin de dominer sur la chair. Donc, si on veut être sanctifié, on a besoin de prier et jeûner en Église. Et moi, je vous recommande, je vous propose cette semaine que chaque personne puisse accepter ce mandat-là de jeûner. Jeûnez comme vous pouvez. Je ne connais pas votre situation médicale, et je dis pour ceux sur Internet, si vous avez besoin de voir un médecin, allez voir un médecin. Je ne connais pas votre vie personnelle. Il y a des fois, une personne qui saute un repas, ils ont des problèmes chimiques avec des pilules, des médicaments. Allez voir votre médecin si vous avez besoin, si vous avez une situation. Mais si vous avez une santé normale, aujourd'hui, je veux vous dire, vous pouvez sauter un repas. Peut-être chaque jour, cette semaine, vous allez dire, « Moi, je veux vivre le réveil. Je veux vivre le réveil et je veux chercher Dieu. Je suis prêt à mettre de côté mon heure de dîner pour prier et chercher Dieu pour un réveil pour mon Église, pour ma vie premièrement. Peut-être c'est l'heure du souper, peut-être c'est le meilleur repas de la journée qu'on dit, le déjeuner. Peut-être certains d'entre vous, vous allez dire, « Oh mon Dieu, moi je me sens que l'Esprit de Dieu me dit de jeûner les desserts. » Savez-vous, moi j'ai fait ça. Pour moi, c'était une grande affaire. Oui, j'ai jeûné les desserts. J'étais en Alberta, j'ai jeûné les desserts 21 jours à l'époque. Ça peut être ça. Vous pouvez dire, « Moi, Dieu... je veux vraiment mettre ça de côté. » Et juste ça, déjà, pour certaines personnes, comme dans mon cas, là, c'était quelque chose. Mettre de côté le dessert. Plus de dessert. Et là, partout où on va, un petit gâteau, un petit... La première fois que j'ai commencé à jeûner, c'est quand j'étais à l'école biblique. J'étais en Louisiane. Et puis là, j'ai dit, « Seigneur, je veux jeûner pour toi, pour chercher ta face. » Et puis la première fois que j'ai jeûné, c'était la première fois qu'on m'a invité au restaurant. Le diable est comme ça. Mais avoir une loyauté envers Dieu, ça me fait penser qu'un pasteur, Jérémy, il ne faut pas que je le dise, j'étais pas fin. J'étais l'agent du diable. Je le tentais. Ça rappelle, hein? C'est terrible. J'étais pas fin. Mais là, j'arrête de parler de tout ça. Mais si on a soif pour vivre la présence de Dieu, moi, j'aimerais ça que chaque personne ici, que vous puissiez réaliser que vous avez besoin d'avoir soif. On a eu un frère et une épouse, pasteur Ruland, qui était venu il y a quelques semaines. Et puis, ils ont dit, « Ah, c'est une église réveillée. » Oui, on est réveillé parce qu'on ne marche pas dans le péché. À ce niveau-là, c'est bien, je pense, en grande partie. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, vous vivez dans le péché, je ne sais pas. Mais en grande partie, on est une église. En tout cas, dans la louange, ça va. Amen? Ça va. On est réveillé, on n'est pas endormi. On aime Dieu, on aime s'exclamer, se réjouir. Mais je peux vous dire, on a besoin plus de soif de Dieu encore. On se réjouit de ce que Dieu a fait en vous et ce que Dieu fait parmi nous. Gloire à Dieu! Mais je suis tellement pas satisfait, frères et sœurs. Je suis tellement pas satisfait. J'ai vécu beaucoup plus dans ma vie et ma femme a vécu plus et on peut vivre plus ensemble. Et la semaine prochaine, je vais continuer parce que j'ai juste d'effleurer le sujet. Je viens juste d'effleurer un petit peu. Je veux juste vous dire la première chose. Si vous retenez une chose cette semaine, j'ai besoin d'avoir soif de Dieu. J'ai besoin d'avoir soif de sa présence. J'ai besoin d'avoir soif et j'ai besoin d'être à la recherche de la présence de Dieu. Ça veut dire que je veux prier, je veux lire la parole, mais je veux vraiment m'attendre de recevoir de lui cette semaine, dans mes temps de prière. Si vous dites, ben, j'en ai pas tant de prière, mais vous avez besoin d'avoir un temps de prière. Il y a un texte, excusez, je suis encore plus long, mais que voulez-vous? Je termine avec 2 Corinthiens 13, verset 5. Si vous dites, ben moi, j'ai pas soif, mais je prie pas, je lis pas ma Bible, je viens à EVQ, ou peut-être je suis ici pour la première fois. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Donc, peut-être vous êtes ici et vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Peut-être vous n'êtes pas encore sauvé. Si c'est vous, bien, vous avez une belle opportunité aujourd'hui où vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus. Et je vais prier avec vous. S'il y a une ou plusieurs personnes, ou peut-être même sur Internet, à la radio, des gens qui sont là qui disent, « Moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que ma vie compte pour l'éternité. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux être purifié. » Et Dieu va le faire ce matin. Mais comme vous êtes là et vous entendez ce message, et vous entendez juste un peu parler des réveils, quand le Seigneur a visité, et quand son onction est venue sur les gens, et comment les gens étaient guéris, et comment les miracles se produisaient, quand Dieu se glorifiait. Si vous dites, j'ai besoin d'abandonner des choses dans ma vie, j'ai besoin de faire en sorte que Jésus soit le premier. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront rajoutées. Mais si vous dites, ben, Dieu est toujours numéro 2 ou 3 ou 4 ou 5, et Jésus n'est pas numéro 1 ce matin. Ce matin, c'est une journée importante qu'on puisse dire, aujourd'hui, Jésus devient numéro 1 dans ma vie. Sérieux, ce matin. Il faut que ça soit une journée où on va s'en rappeler, frères et sœurs. Où Jésus devient numéro un pour moi dans ma vie. Avant ma femme, avant mes enfants, avant ma famille, mes amis, Jésus numéro un. Ça veut dire que vous allez passer du temps avec Dieu. Vous allez chercher sa face. Et ce matin, on a besoin d'arriver à cette place. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans cette place, tous ceux qui sont avancés, qui veulent se consacrer à toi. Tous ceux qui sont là, Seigneur, qui disent « Je veux avoir soif, je veux avoir plus soif de toi, soif de ta présence. » Seigneur, aujourd'hui, je veux prier avec eux. Je veux prier avec eux, je veux prier pour eux, Seigneur Dieu, maintenant. Seigneur, je prie pour un miracle dans mon cœur. Un miracle dans mon cœur, premièrement, Seigneur. Que j'aie ce désir ardent, ce grand désir pour ta présence. Seigneur, travaille mon cœur, Seigneur. Travaille mon cœur, que je puisse vouloir juste toi, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, viens me montrer les choses que je dois changer, les choses que je dois changer, que je dois enlever dans ma vie, les choses qui prennent le dessus sur mon temps. Seigneur, viens me changer, viens me transformer ce matin. Seigneur, je veux avoir des yeux juste pour toi, Seigneur. Je veux être à la recherche de ta présence. Oh Seigneur, on prie qu'on ne vivra pas 13 ans sans ça. Seigneur, ce jeune homme-là qui a cherché ta face 13 ans. Mais Seigneur, coûte que coûte, on veut être tellement convaincu ce matin qu'on est prêt à payer n'importe quel prix pour vivre ce réveil parmi nous. Seigneur Dieu, viens ce matin. Père éternel, merci d'envoyer ton Saint-Esprit maintenant sur mes frères et mes sœurs. Que la flamme qui est dans chaque cœur, que tu viennes souffler maintenant, Seigneur, sous ces flammes, Seigneur Dieu. Et par un feu, que ça puisse faire un feu parmi nous, Seigneur Dieu. Un feu de ta présence dans cette place. On vient nous consumer, Seigneur Dieu, dans ta présence. Viens, Seigneur Dieu, maintenant, ceux qui ont du péché caché dans leur vie. Seigneur Dieu, merci parce que tu leur montres des choses qui doivent changer. Merci pour l'abandon total, Seigneur Dieu. Toutes les choses, Seigneur, les idoles dans nos vies, Seigneur Dieu. Les idoles, Seigneur, qui peuvent être là. Seigneur, donne-nous les yeux pour voir les choses qui sont là, qui prennent ta place dans nos vies. Seigneur Dieu, je prie pour un esprit de repentance dans cette maison. Seigneur, un esprit de repentance dans cette maison. Des fois, Seigneur, où on a mal aimé. Des fois, où on a mal aimé, Seigneur Dieu. Où on n'a pas obéi à ta voix. Je te demande pardon, Seigneur Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, pour les fois où on n'a pas écouté. Les fois où on était rebelles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. On veut être pur. On veut être purifié. On veut enlever le péché de notre vie. On veut délaisser le péché ce matin. Oh, Seigneur, les fois où on a parlé en mal. Oh, les fois qu'on a pensé, simplement pensé, Seigneur Dieu. Merci de nous purifier. On se repent, Seigneur Dieu. On se détourne. On se détourne. On se détourne ce matin des choses qui ne sont pas de toi. Et aujourd'hui, on va vers toi. On court vers toi, Seigneur, dans tes bras d'amour parce que tu nous reçois. Merci, Seigneur Dieu, pour les vêtements blancs. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes revêtus, Seigneur, de ta présence. Merci parce que le sang de Jésus purifie chaque personne ce matin. Le sang de Jésus. Ceux qui ont des habitudes, Seigneur, des choses qui les empêchent d'avancer, qui sont liées. Au nom de Jésus, nous déclarons. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin la liberté. Pour ceux qui ont une mauvaise disposition. Oh, ceux qui ont une mauvaise disposition, Seigneur, on prie pour eux aujourd'hui aussi ce matin. Chaque personne, peu importe notre problème, peu importe notre défi. Seigneur, on vient vers toi. On réalise qu'on est totalement dépendant. Totalement dépendant sur toi. On ne peut rien faire de nous-mêmes, Seigneur. On ne peut rien faire de nous-mêmes, mais c'est juste en se tournant vers toi que tu nous qualifies, que ton onction est là. Seigneur Dieu, on est dépendant sur toi, Seigneur, ce matin dans cette maison. On est dépendant sur toi. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si on se pense autosuffisant, comme l'Église de Laodicée qui pensait « Je suis riche, puis j'ai besoin de rien ». Pardonne-nous, Seigneur Dieu, si on pense qu'on est correct nous-mêmes. Seigneur Dieu, on se tourne vers toi. On réalise, Seigneur, sans toi, on n'est rien. On a besoin de toi. Oh, Seigneur, que la crainte de l'Éternel puisse envahir nos cœurs. Que la crainte de l'Éternel puisse envahir nos cœurs dans cette place. Seigneur Dieu, oh, que ta crainte, la crainte pour ton Saint-Nom, Seigneur, nous envahisse ce matin. Que ton onction vienne ce matin sur ce peuple. Que ton onction vienne sur ce peuple ce matin. Oh, alléluia, merci, Seigneur Dieu. Merci parce que tu le fais en ce moment. Merci, Seigneur, pour les gens, même à la radio ou sur Internet. Aujourd'hui, un esprit de supplication vient sur ce peuple. Seigneur Dieu, on vient te demander. Merci, Seigneur Dieu, pour ton oreille. On vient te demander, Seigneur. On vient te demander de recevoir cette prière qui vient de notre cœur, Seigneur. On veut plus de toi. On veut plus de toi. On veut plus de toi dans cette maison. On veut plus de toi, Seigneur Dieu, dans cette maison. On veut plus de toi. On veut plus de toi.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.